Cependant, les juges diseurs, tous choisis parmi les plus importants personnages du royaume, tels le connétable Raoul de Brienne ou messire Mils de Noyers, s'occupaient de l'organisation du grand tournoi final. Entre le temps passé à se harnacher et déharnacher, à paraître aux joutes, à commenter les exploits, à ménager les vanités des chevaliers qui voulaient combattre sous telle bannière et non sous telle autre, et le temps employé à table, et celui encore d'écouter Ménestrel après les festins, et de danser encore après avoir ouï les chansons, c'était à peine si le roi de France, le roi de Bohême et leurs conseillers disposaient d'une petite heure chaque jour pour s'entretenir des affaires d'Italie, qui étaient somme toute la raison de cette réunion. Mais on sait que les affaires les plus importantes se règlent en peu de paroles si les interlocuteurs sont en bonne humeur de s'accorder. Comme de vrais rois de la table ronde, Philippe de Valois, magnifique en ses robes brodées, et Jean de Luxembourg, non moins somptueux, s'adressaient le hanap en main de solennelles déclarations d'amitié. On décidait à la hâte d'une lettre au pape Jean XXII ou d'une ambassade au roi Robert de Naples. « Ah, il faudra aussi, mon beau sire, que nous parlions un peu de la croisade !» disait Philippe VI. Car il avait repris le projet de son père Charles de Valois et de son cousin Charles le Bel. Tout allait si bien au royaume de France. Le trésor se trouvait si convenablement fourni et la paix de l'Europe, avec l'aide du roi de Bohême si convenablement assurée, qu'il devenait urgent d'envisager, pour l'honneur et la prospérité des nations chrétiennes, une belle et glorieuse expédition contre les infidèles. « Ah, mes seigneurs, on corne l'eau !» La conférence était levée. On discuterait de la croisade après le repas ou le lendemain. À table, on se gaussait fort du jeune roi Édouard d'Angleterre qui, 3 mois auparavant et accompagné du seul Lord Montagu, était venu déguisé en marchand pour s'entretenir secrètement avec le roi de France. Oui, costumé comme un quelconque négociant lombard. Et dans quel dessein ? Pour conclure un règlement de commerce au sujet des fournitures lainières à la Flandre. Un marchand, en vérité. Il s'occupait des laines. Avait-on jamais vu prince soucier de telle affaire, comme un vulgaire bourgeois des guildes ou des hanses ? Alors, mes amis, puisqu'il le voulait, je l'ai reçu en marchant, disait Philippe de Valois, charmé de son propre calembour. Sans fête, sans tournoi, en marchant dans les allées de la forêt d'Alate, je lui ai offert un petit souper maigre. Ah ! Il n'avait que des idées absurdes, ce jeune homme. N'était-il pas en train d'instituer dans son royaume une armée permanente de gens de pied, avec service obligatoire ? Qu'espérait-il de cette piétaille, alors qu'on savait bien, et la bataille du Mont Cassel l'avait assez prouvé, que seule la chevalerie compte dans les combats, et que le fantassin fuit dès qu'il voit paraître cuirasse. Il semble toutefois que l'ordre règne davantage en Angleterre depuis que Lord Mortimer a été pendu, faisait observer Mils de Noyers. L'ordre règne, répondait Philippe VI, parce que les barons anglais sont là pour un temps de s'être beaucoup battus entre eux. Dès qu'ils auront repris souffle, le pauvre Édouard verra ce qu'il pourra avec sa piétaille. Et il avait pensé la guerre, le cher garçon, à réclamer la couronne de France. Allons, mes seigneurs, regrettez-vous de ne l'avoir pour prince? Ou bien préférez-vous votre roi trouvé ? Ajoutait-il en se frappant gaillardement la poitrine. Au sortir de chaque festin, Philippe disait à Robert d'Artois assez bas : « Mon frère, je veux te parler cela seul et de choses fort graves. »« Sire, mon cousin, quand tu le souhaiteras ! » !»« Eh bien, ce soir. » Mais le soir, on dansait, et Robert ne cherchait pas à hâter un entretien dont il devinait trop aisément l'objet. Depuis les aveux de la Divion, toujours tenu en prison, d'autres arrestations avaient été opérées, dont celle du notaire Tesson, et tous les témoins soumis à une contre-enquête. On avait remarqué, pendant les brèves conférences avec le roi de Bohême, que Philippe VI ne demandait guère le conseil de Robert, ce qui pouvait être interprété comme un signe de défaveur. La veille du tournoi, le roi d'armes, accompagné de ses héros et de ses sonneurs, se rendit au château, aux demeures des principaux seigneurs, et sur les lys même, afin de proclamer « Or, oyez, oyez, très haut et puissant prince, duc, comte, baron, seigneur, chevaliers et écuyers, je vous notifie, de par mes seigneurs les juges diseurs, que chacun de vous fasse ce jour apporter son aume sous lequel il doit tournoyer, et ses bannières aussi, en l'autel de mes seigneurs les juges, afin que mes dix seigneurs les juges puissent commencer à en faire le partage. Et après qu'ils seront départis, les dames viendront voir et visiter pour en dire leur bon plaisir. Et pour ce jour, autre chose ne se fera, sinon les danses après souper. »